Merci d'avoir choisi Europe 1.
Les remontées mécaniques sont fermées, mais il reste quand même des raclettes à aller chercher chez le fromager. Donc les vacances ne seront pas si catastrophiques.
Vacances chez soi, mais vacances quand même. Qui démarre ce soir pour les écoliers de la zone A, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Dijon ou Lyon, où nous serons dans un instant pour voir quels sont vos projets pour ces congés, pas comme les autres. Congés sur fond d'inquiétude. Chez de nombreux médecins, les hôpitaux franciliens vont commencer à déprogrammer des soins. Santé publique France dit s'attendre à une aggravation. Point complet sur tout ce que l'on peut anticiper. À suivre avec Mathieu Charrier. Dans ce journal, nous serons aussi à Marmande avec le Premier ministre qui promet l'état de catastrophe naturelle aux sinistrés des inondations. On entendra la colère des syndicats de Sanofi. 12 milliards d'euros de bénéfices, mais des postes supprimés dans la recherche. Le verdict attendu aux assises de la Marne dans le procès de la mort de Tony. 30 ans requis contre le beau-père. Et puis une ex-secrétaire d'un camp nazi menacée de procès en Allemagne à 95 ans. Et Bob Sinclair qui n'en peut plus. Le DJ veut à nouveau pouvoir danser. À 22h20, l'interview écho d'Emmanuel Duteil. La pandémie creuse notre déficit commercial. Le directeur général de Business France sera avec nous. Ce sera juste après la bourse et vos prévisions météo pour ce week-end. Une nouvelle perturbation arrive, nous dira Anissa Haddadi.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Pas de ski, pas de voyage à l'étranger. Pour ceux qui avaient la chance d'en prévoir d'habitude, les vacances scolaires ont débuté pour la zone A dans des conditions une nouvelle fois particulières. Mais 15 jours de repos, ça fera du bien quand même à Bordeaux, Clermont-Ferrand ou Lyon. Comment s'y prépare-t-on? Et surtout, quel programme à venir? Vous vous êtes renseigné dans la capitale des Gaules, Jean-Luc Beaujean.
Bah écoutez, on réduit beaucoup ses ambitions pour ces vacances d'hiver. C'est clair, la majorité des personnes que j'ai rencontrées cet après-midi renoncent purement et simplement à partir. C'est le cas de Bernadette qui, pourtant, en temps normal, est une adepte du ski à Chamonix.
J'aurais bien voulu aller au ski, mais je n'irai pas au ski. Si c'est pour aller au ski, ne pas profiter des restaurants, ni d'un petit coup de vin chaud, quelle est l'utilité de partir en vacances? C'est bien dommage. Non, on va se restreindre cette année et on va penser à notre santé avant tout.
Voilà, malgré tout, certains ont décidé de braver leurs craintes face à la situation sanitaire. Flamène, par exemple, part à la neige en Haute-Savoie, mais en réduisant la voilure, c'est-à-dire qu'elle part seulement quelques jours.
3 jours, ce sera court, mais il faut bien se changer les idées. Après un an bloqué chez soi, faut bien, à un moment donné, il faut partir.
Vous allez faire quoi alors? Parce que les remontées mécaniques sont fermées, vous savez?
Oui, les remontées mécaniques sont fermées, mais il y a quand même des petits commerçants qui proposent des locations de raquettes, et puis il reste quand même des raclettes à aller chercher chez le fromager. Donc les vacances ne seront pas si catastrophiques.
Et puis d'autres, comme Richard, changent carrément de projet. Pas de neige ni de ski cette année. Ce sera cap au sud.
On part pas au ski cette année, bien, vu les conditions sanitaires. Donc du coup, on se rabat sur des valeurs sûres, comme elle est du côté de Cardon-Plage, qui se trouve juste à côté de Montpellier. On s'est dit que ce sera l'Yode cette année, plutôt que la montagne.
Voilà, tout ça montre que cette année, ce ne sera pas le grand rush vers les montagnes. Ce qui est confirmé par les chiffres, avec seulement 37% de réservations dans les stations de ski, contre 80 à 90% une année normale.
Jean-Luc Beaujean, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Alors que de nombreux médecins s'inquiètent de plus en plus ouvertement de la décision du gouvernement de ne pas avoir été plus ferme avant ces vacances et ce possible brassage de population, le directeur de crise de l'APHP, les hôpitaux parisiens, prévoit de commencer à déprogrammer des opérations non urgentes dès lundi pour laisser de la place en réanimation. Mathieu Charrier, Santé publique France n'est pas non plus rassurante. Dans son bulletin hebdomadaire, elle parle de mesures plus strictes nécessaires dans un avenir proche. Ces vacances, est-ce que c'est vraiment un danger ou au contraire, est-ce qu'elles peuvent aussi nous aider?
Oui, puisque certes, pendant les vacances, certains Français changent de région. Il y a donc un peu de brassage interrégional avec tous les risques que ça comporte. Mais plus d'écoles, donc plus de cantines, donc beaucoup moins de risques de contagion entre les enfants. Et puis du côté des adultes, pour ceux qui sont en vacances, ça veut dire moins de déplacements aux heures de pointe, dans les transports en commun par exemple, moins de monde dans les entreprises et surtout moins de monde dans les cantines d'entreprises. C'est pour ça que les épidémiologistes et le gouvernement attendent ces vacances avec impatience. Autre point important, la vaccination qui se poursuit. Plus de la moitié des résidents en EHPAD ont été vaccinés, 13% des plus de 75 ans. Et comme ce sont eux les plus fragiles, leur protection pourrait permettre de soulager le système hospitalier, même si le R0 recommençait à augmenter, ce fameux nombre de personnes que contamine un malade. Aujourd'hui, il est autour de 1. Le nombre de nouvelles contaminations chaque jour est stable, tout comme les admissions à l'hôpital, tout comme le nombre de morts quotidiens. Mais, seule ombre au tableau, la part du variant anglais dans les nouveaux cas, elle est passée en un mois de 3 à 14%. Et comme il est plus contagieux, les épidémiologistes craignent que ça se ressente rapidement dans toutes ces données et que les nouveaux cas repartent à la hausse. D'où l'importance donc de la campagne de vaccination et de ses vacances scolaires.
Mathieu Charrier, chef du service Société d'Europe 1, le vaccin AstraZeneca doit lui arriver demain en France, destiné d'abord aux soignants. L'Espagne va le réserver aux moins de 55 ans. Chez nous, on reste aux moins de 65 ans. Et de vaccins, il en a été question cet après-midi lors d'un conseil de défense franco-allemand. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont défendu ensemble la stratégie européenne sous le feu des critiques, notamment pour les retards. Stratégie de commande groupée qu'ils estiment toujours être la bonne, Jean-Rémy Baudot.
Oui, stratégie payante, mais il y a une forme de musique, petite musique qui monte en Europe en forme de mea culpa. En résumé, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont défendu la stratégie vaccinale de l'Union européenne, mais tous deux admettent un manque d'anticipation. Emmanuel Macron a rappelé que toutes les technologies de vaccins ont été commandées par l'Europe, mais comme le reconnaît pour la première fois le chef de l'État, eh bien une technologie s'est imposée sur les autres.
Nous n'avions pas anticipé, personne n'avait anticipé, qu'il y aurait un succès si rapide, si sûr, sur les vaccins à ARN messager. Et donc nous sommes confrontés, comme tous, à des contraintes aujourd'hui de production que nous sommes en train de lever. Mars sera meilleur que février et à partir d'avril, les choses iront beaucoup mieux. Et d'avril à juin, nous serons dans l'organisation d'une campagne vaccinale qui prendra tout son rythme.
Paris comme Berlin qui promettent désormais donc que l'industrie européenne est prête à relever le défi du vaccin. 2,3 milliards de doses ont été commandées. Angela Merkel a donc rappelé l'importance d'amplifier les efforts industriels.
Nous avons identifié que les capacités de production de l'Union européenne n'étaient pas aussi vastes que nous le pensions. Suffisamment de vaccins ont donc été commandés, mais la question de nos citoyens est de savoir combien sont disponibles maintenant et non pas combien avez-vous commandé au total.
Voilà, encore un mea culpa. Et comme pour répondre à ces citoyens qui s'interrogent, Emmanuel Macron a tenu à rappeler...
Je rappellerai quand même d'un mot que la santé n'est pas normalement une compétence communautaire. Et donc nous avons, en marchant, inventer une politique qui n'existait pas.
Voilà, le président qui promet qu'une production supplémentaire sera préparée contre les variants. Ce sera notamment le rôle d'une task force européenne confiée au commissaire européen Thierry Breton.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron et Angela Merkel qui ont aussi réagi cet après-midi à la décision de la Russie d'expulser trois diplomates européens, dont un Allemand accusé d'avoir participé à des rassemblements de soutien à Alexei Navalny. Décision infondée, disent les deux dirigeants. L'ambassadeur de Russie en Allemagne a été convoqué.
Europe 1, Théo Manval.
22h08 sur Europe 1. Le Premier ministre Jean Castex était lui aux côtés des sinistrés des inondations dans le Lot-et-Garonne cet après-midi, où la situation revient peu à peu à la normale, à Marmande notamment, mais il faut nettoyer, il y a du boulot. En tout cas, la solidarité s'organise, le chef du gouvernement a pu le constater. Vous avez suivi sa visite, Stéphane Place.
Oui, arrivé à Marmande en début d'après-midi, le Premier ministre a d'abord salué les services de secours avant d'aller à la rencontre des sinistrés.
Monsieur le Premier ministre, bonjour.
C'est vous qui habitez ici.
Oui.
30 cm d'eau dans la maison.
Bonjour les enfants. Vous avez eu peur ?
Oui. On va vous montrer une vidéo.
Attends, oui, il faut les lunettes. Hein.
Ça a commencé à rentrer dans la maison à 21h.
Oh, ça sortait par les plantes, les chambranles de porte.
Évidemment, les victimes de cette crue exceptionnelle espèrent maintenant des indemnisations rapides. Jean Castex leur promet une procédure accélérée.
Nous avons évoqué avec les élus pour l'ensemble des populations la déclaration de catastrophe naturelle que nous allons instruire avec une grande diligence afin qu'elle puisse être déclarée dans les meilleurs délais.
Autre sujet évoqué par les élus locaux avec le chef du gouvernement, la question des digues essentielles aux yeux du maire de Tonneins, Dante Rinaudot.
Là, on a un gros travail pour sensibiliser l'État. 90% des inondations peuvent être protégées par des digues. Contrairement à certaines doctrines qui disent qu'il faut retrouver le lit de la Garonne comme il était en 1515, eh ben non. Aujourd'hui, il y a des populations, il y a une économie et il faut la gérer d'une manière collective.
Près de 300 pompiers demeurent mobilisés ce week-end, notamment pour des opérations de pompage de l'eau encore présentes dans de nombreuses maisons.
Stéphane Place, depuis Marmande pour Europe 1, 11 départements dont le Lot-et-Garonne restent en vigilance. Vigilance orange pour les inondations ce soir. Également la Seine-et-Marne, le Maine-et-Loire ou encore la Saône-et-Loire. Au volet économique, cette annonce qui passe très mal auprès des syndicats de Sanofi. Le vaccin du laboratoire français se fait attendre. Un millier de postes vont être supprimés dans l'année, mais le groupe annonce un bénéfice net en hausse de 340% sur un an. Il va verser 4 milliards de dividendes à ses actionnaires, ce qui ne passe vraiment pas, Emmanuel Dutheil.
Oui, hein, Sanofi prend le risque de relancer une polémique alors que le laboratoire n'arrive pas pour le moment à sortir un vaccin, alors qu'il annonce des suppressions de postes, notamment dans sa branche recherche. Le groupe augmente fortement la somme accordée à ses actionnaires et selon les syndicats, dans le même temps, il refuse une augmentation générale des salaires, ce que dénonce Umberto de Souza, coordinateur adjoint de la CFDT chez Sanofi.
S'entendre dire qu'il n'y aura pas de revalorisation salariale, c'est difficile à entendre. On s'interroge sur la reconnaissance du travail et de l'investissement des salariés vis-à-vis de celui des actionnaires qui est bien moins visible sur le terrain quand il faut produire des médicaments et des vaccins.
Alors, selon l'entreprise, suspendre le dividende ou le réduire en raison de la pandémie viendrait à fragiliser Sanofi et à réduire son attractivité. La direction a rappelé aujourd'hui dans une note interne que les salariés français bénéficieront aussi de cette hausse du dividende. 90% d'entre eux sont actionnaires du groupe. La direction qui ajoute que l'intéressement et la participation devraient être supérieurs à 2019.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Une épine dans le pied aussi pour les opérateurs téléphoniques Bouygues et SFR. Ils vont devoir démonter des milliers d'antennes relais, conséquence de la validation par le Conseil constitutionnel de la loi qui interdit aux Chinois Huawei de s'implanter sur notre marché de la 5G, Clément Le Saffre.
Oui, puisque concrètement, cette loi contraint fortement les opérateurs à ne pas avoir recours à Huawei pour construire leur réseau mobile, surtout pour la 5G qui est en cours de déploiement en ce moment. C'est une mesure de précaution prise au nom de la sécurité nationale à cause des soupçons d'espionnage qui entourent le géant chinois. Tous les opérateurs ne sont pas égaux face à cette consigne. Orange et Free, qui travaillent historiquement, eux, avec Nokia et Ericsson, les concurrents européens de Huawei pour le matériel télécom, eux ne seront pas trop pénalisés, même si, dans le cas d'Orange, on aurait bien aimé quand même faire affaire avec le géant chinois. En revanche, les réseaux de Bouygues et SFR sont bâtis pour moitié avec Huawei. C'est d'ailleurs eux qui avaient porté l'affaire devant le Conseil constitutionnel. Bouygues, par exemple, va ainsi devoir retirer 3000 antennes Huawei d'ici à 2028. Des travaux lourds et coûteux. Or, le gouvernement a indiqué que les opérateurs concernés ne seraient pas indemnisés.
Débrouillez-vous. Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1. L'ancien candidat à la présidentielle François Asselineau mis en examen pour harcèlement moral et agression sexuelle. Le patron du parti souverainiste UPR est accusé par deux anciens salariés de son parti qui avaient porté plainte contre lui au printemps dernier. Alors qu'on attend toujours aux assises de la Marne le verdict dans le procès de la mort du petit Tony, la peine maximale a été requise cet après-midi pour le beau-père de l'enfant. 30 ans de prison pour lui avoir infligé l'enfer. 5 ans dont 1 avec sur pour la mère du garçon coupable de n'avoir jamais dénoncé ses coups. Marion Dubreuil, vous suivez ce procès pour nous. Les délibérations sont toujours en cours après la dernière prise de parole des deux accusés devant les jurés.
Oui, et pour la première fois à l'audience, Caroline a prononcé le prénom de son fils. Tony, je t'aime et je t'aimerai toujours. Depuis le box des accusés, Loïc a également eu un mot pour le petit garçon et il a renouvelé ses regrets. Ce matin, le procureur a mené un réquisitoire sévère dénonçant la violence gratuite et l'acharnement d'un homme de 24 ans sur un petit garçon de 3 ans et demi, 17 kilos à peine, 98 centimètres. Un bourreau contre lequel il a requis la peine maximale. Pour l'avocat général, les longues peines permettent d'enterrer les morts et de réparer les vivants. L'avocat de Loïc a bien tenté de plaider l'être humain derrière l'acte monstrueux. L'absence d'émotion de son client, son impulsivité à la barre, ont laissé une mauvaise impression en 5 jours d'audience. C'est Loïc qui a tué Tony, a affirmé l'avocat général, mais il avait besoin du silence coupable de Caroline. Le magistrat n'a pas épargné la mère de Tony. Il a balayé d'un revers de la main l'argument de la faiblesse. Entre Tony et Loïc, il fallait choisir, explique Mathieu Bourrette, et elle a fait le mauvais choix. Les avocates de la jeune femme ont malgré tout plaidé la relaxe, l'emprise de Loïc sur Caroline. Ça ne plaît pas, concède Maître Colliac. Caroline, on veut la voir à genoux. Pourquoi devrait-elle retourner en prison ? Pour le symbole, demande l'avocate à la cour. Caroline a les yeux rivés au sol, le dos courbé. Aujourd'hui, elle est insérée, elle a un travail. Elle ajoute, Tony est mort, elle le paye tous les jours. C'est ça sa peine.
Marion Dubreuil depuis la cour d'assises de Reims.
Europe 1. Théo Manval.
22h14 à l'étranger, cette première dans l'histoire judiciaire en Allemagne. Une femme pourrait être jugée pour ses actes de service dans un camp de concentration nazi. Elle a 95 ans aujourd'hui, était adolescente à l'époque et servait de secrétaire à un homme qui a envoyé à la mort plus de 10 000 personnes, Hélène Cole.
Et selon la chaîne de télévision NDR qui l'a rencontrée l'an dernier, cette vieille dame, aujourd'hui âgée de 95 ans, ne conteste pas avoir travaillé au camp de Stutthof dans le nord de la Pologne. Elle se souvient très bien de ses activités dans un bâtiment situé en face du camp. Son bureau donnait, affirme-t-elle, dans l'autre direction et elle n'est elle-même jamais rentrée dans le camp. En revanche, et elle a d'ailleurs déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises à la justice en tant que témoin dans d'autres procès, oui c'est vrai, elle était chargée de taper à la machine tous les documents administratifs administratif du camp et la correspondance du commandant avec sa hiérarchie SS. Et pendant 2 ans, la jeune Steno, encore mineure, va par exemple taper des ordres d'exécution. Mais elle pensait, dit-elle, que c'était lié à des mesures disciplinaires internes au camp. Elle affirme n'avoir découvert qu'après la guerre qu'il y avait aussi des chambres à gaz au Stutthof et qu'un millier de déportés y ont été assassinés. En 1957, son chef, le commandant du camp, avait été rattrapé par la justice et condamné à de la prison ferme, mais on avait laissé le cas de sa secrétaire de côté. Elle était tout en bas de la chaîne de commandement de l'Holocauste, admet l'avocat des survivants du camp, mais elle en faisait quand même partie, un tout petit rouage, mais un rouage quand même mis en accusation aujourd'hui.
Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 à Berlin. De premières nouvelles d'Aung San Suu Kyi, après le coup d'État en Birmanie, la prix Nobel de la paix est assignée à résidence dans la capitale Naypyidaw, mais elle est en bonne santé, assure son parti. La contestation s'intensifie sur place avec des centaines de manifestants aujourd'hui à Rangoon et de nombreuses arrestations. À 22h16, l'actualité culturelle pour finir ce journal et le DJ Bob Sinclair qui n'en peut plus de ne plus pouvoir danser et faire danser pour réclamer la réouverture des boîtes de nuit. Il a décidé de parodier Florent Pagny dans une vidéo intitulée « Ma liberté de danser », Angèle Châtelier.
Oui, trop d'interdits, trop de PCR, chante-t-il. Il y en a ras-le-bol du bal masqué. Dans cette reprise humoristique, le DJ Bob Sinclair s'amuse à se faire vacciner aussi par le diable, danse en tutu. Il réclame, oui, la liberté de danser.
Quitte à tout prendre, prenez mes gosses, il faut bien suer. Leur cours de danse, nos sports d'hiver, la culture, ça c'est déjà fait.
Cette vidéo, diffusée sur ses comptes Facebook et Instagram, a déjà fait 350 000 vues en 24 heures. Mais les réactions sont partagées. Ce qui est sûr, c'est que certains se moquent de lui gentiment. Le Covid nous donne même Bob Sinclair qui reprend du Florent Pagny, nous dit un internaute. Tu croyais qu'il y avait pire que Bob Sinclair en DJ, puis il s'est mis à chanter, tweet un autre. Mais que cette vidéo soit du second degré ou non, Bob Sinclair dénonce une réalité. Le milieu de la nuit suffoque. Selon le principal syndicat des boîtes de nuit, déjà 430 clubs ont déjà mis la clé sous la porte.
Mais vous n'aurez pas ma liberté de danser.
Angèle Châtelier, et puis lui avait été révélé par La Mélodie du Bonheur dans les années 60. Et l'acteur à avoir remporté l'Oscar à un âge le plus âgé, c'était en 2012 pour un second rôle dans Beginners avec notamment Mélanie Laurent. L'acteur canadien Christophe Plummer s'est éteint ce soir à 91 ans, terme d'une riche carrière longue de 3/4 siècle. 22h17, la météo. Avec vous, Anissa Haddadi, 11 départements en orange encore pour les crues, je le disais, et le temps va se dégrader encore demain.
Oui Théo, ça y est, la pluie est de retour avec dès le début de la journée, demain, des pluies du Pays Basque jusqu'à la Vendée, puis sur le centre-Val de Loire, la région parisienne et les Ardennes. En Bretagne et dans le Cotentin, là, le temps est très ensoleillé, très nuageux sur le nord-est, et puis des Alpes à la Méditerranée, en passant par la vallée du Rhône et l'Auvergne. Là, nous avons un temps sec, mais un soleil très souvent voilé, avec toujours de fortes rafales de vent marin au bord de la Méditerranée. Il pleut des Cévennes jusqu'au Languedoc. Au fil des heures, les pluies vont même se transformer en orages, avec des pluies là très soutenues. Et puis des Pyrénées jusqu'aux Ardennes, sur cette diagonale très pluvieuse. Demain après-midi, les pluies vont se renforcer. Prudence dans le sud-ouest. Notez le retour de la neige aussi sur les Alpes, à partir de 2000 mètres d'altitude. Les températures, elles sont un petit peu plus fraîches à l'ouest, avec 1 degré à Saint-Brieuc demain matin, 2 à Brest et Lorient, 7 à Bordeaux, 8 à Paris et 11 à Marseille le matin. Et dans l'après-midi, nous aurons 8 à 21 degrés, 8 pour Dunkerque, 10 à Paris et 21 pour Ajaccio.
Merci Anissa Haddadi. Europe 1. Vous ne bougez pas dans un instant, on fait le point sur les places financières. Avant l'interview éco d'Emmanuel Duteil, Christophe Lecourtier, patron de Business France. Comment la pandémie creuse notre déficit commercial? A tout de suite.
Europe 1, le journal de la nuit.
Théo Manval.
Un point sur la bourse avec vous, Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Théo.
Wall Street reste au sommet ce soir. Les marchés sont dopés par les espoirs de relance économique. Le plan de Joe Biden, notamment, avance très bien.
Oui, on signe de nouveaux records. Record pour le Dow Jones en hausse de 0,30%, 31 148 points. Et pour le Nasdaq, plus 0,57%, 13 856 points. Joe Biden promet d'agir vite pour soutenir l'économie et les marchés croient aux promesses du président américain. Et puis les résultats financiers des entreprises sont bons. Estée Lauder, le groupe de cosmétiques, grimpe de 8%. Ses ventes ont été dopées par la forte demande des consommateurs chinois. Des résultats solides aussi pour Snap, la maison mère du réseau social Snapchat, et pour Pinterest. Les deux titres sont en forte hausse. Et puis, belle séance pour Johnson & Johnson. Le groupe a demandé la mise sur le marché en urgence de son vaccin contre le coronavirus. Le titre bondit de 1,5%.
À Paris, le CAC 40 confirme ses bonnes dispositions de la semaine et gagne encore près de 1%.
Oui, encore un gain de 0,90% à 5659 points ce soir. Le CAC 40 a gagné près de 5% depuis lundi, soutenu entre autres par des résultats solides du côté des entreprises. C'est le cas de Vinci. Le groupe de BTP et de concessions a réalisé une performance jugée remarquable par les analystes. Malgré les restrictions sanitaires, l'action grimpe de 5,8%. Des résultats et prévisions salués aussi ce soir pour le laboratoire Sanofi. Vous en parlez dans le journal. Le titre gagne 1,5%. Et puis pour BNP Paribas, c'est bien aussi et ça monte plus de 2,6%.
Le géant américain Apple, Claire Lemaître, agite le secteur de l'automobile. Va falloir nous expliquer.
Alors c'est la spéculation autour de l'arrivée d'Apple sur le marché des voitures électriques qui bat son plein depuis quelques jours. Le groupe serait en discussion avec au moins 6 constructeurs, dont Nissan, le partenaire historique de Renault. Et donc Renault en profite ce soir et gagne plus de 5%. Les marchés européens ont terminé la semaine dans le désordre. Francfort est stable et Londres perd 0,2%. C'est mieux pour Milan, plus 0,8%, et pour Madrid, plus 1,1%. Bruxelles, plus 0,6%. Et à Paris, Théo, le CAC 40 gagne 0,9%, 5659 points.
Merci pour ce tour d'horizon complet. Claire Lemaître de Boursier.com. Bon week-end. 22h22 sur Europe 1, c'est l'heure de l'interview écho avec vous Emmanuel Duteil et avec votre invité ce soir. On ausculte la balance commerciale de la France, très déficitaire avec la pandémie, c'est à vous.
Bonsoir Christophe Lecourtier.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général de Business France. Business France, c'est notre organisme qui est chargé de vendre la France à l'international, mais également de donner envie aux investisseurs internationaux de venir en France. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est pour parler du déficit commercial. Alors, il n'est pas bon pour 2020. La pandémie a fortement creusé ce déficit à cause, bien évidemment, de l'aéronautique, mais également de l'automobile. Si on regarde d'un point de vue global, on se dit quoi ? C'est la catastrophe ?
On se dit que d'abord, heureusement, ce genre de catastrophe, ça arrive une fois tous les 50, 60, 70 ans. Il faut savoir que le choc qu'on a subi, nous, et la plupart des nations développées au deuxième trimestre, confinement, c'est moins 30%. C'est un truc qui n'arrive, encore une fois, heureusement qu'une fois par siècle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on est touché dans les fleurons de notre exportation. On est un des champions mondiaux de l'aéronautique. Malheureusement, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la France, c'est un des secteurs qui est le plus touché. On est un des champions automobiles. Et là aussi, ça a été une année tragique pour cette industrie. Et puis aussi, on vend, par exemple, du champagne, des vins. On est les leaders pour les produits agroalimentaires haut de gamme. Et quand les restaurants sont fermés, quand il n'y a plus de mariage, plus de banquets, voilà, tout ça est aussi en berne. Mais évidemment, on est en train d'essayer de reconstruire et de revenir tous ensemble vers un monde.
Mais on va regarder ça dans un instant. Malgré tout, les douanes qui ont communiqué ces chiffres ce matin pointent du doigt le fait que la France a perdu des parts de marché en 2020. Ça a été dur pour tout le monde, mais on s'en sort moins bien que les autres.
D'accord, mais il est quand même très illusoire de tirer des conséquences définitives à partir d'une année exceptionnelle. Enfin, ça n'a juste pas de sens d'un point de vue économique. Ce qui est vrai, c'est que depuis 2017, 2018, 2019, on avait non seulement consolidé, mais regagné des parts de marché. Donc ça, je le regarde dans des circonstances normales, je pense que ça a un peu plus de sens.
Mais c'est aussi une photo qui quand même fait peur sur notre désindustrialisation. Et là, on peut penser notamment dans le secteur textile, parce que ce qui nous coûte cher, c'est qu'on a dû importer des masques, on a dû importer du gel, on a dû importer plein de choses que l'on n'était même plus capable de fabriquer chez nous.
C'est vrai qu'il y a 6 ou 7 milliards d'importations supplémentaires de Chine, qui sont essentiellement dues aux produits que vous indiquez.
A priori, selon les douanes, 6 milliards d'euros, 5,9 si on veut être précis, pour les importations de masques.
Oui, c'est un sujet qui a suffisamment fait couler d'encre pour qu'on ne se plaigne pas d'avoir réussi à les importer. Maintenant, il y a 2-3 ans, si on avait dit qu'on allait créer en France des usines pour fabriquer des masques et des blouses chirurgicales, je suis pas sûr que tout le monde aurait applaudi. Aujourd'hui, on déchante et on se rend compte que ce genre de pandémie peut se reproduire. Et je peux vous dire que depuis, il y a eu pas mal de relocalisations d'industries qui, en France, d'industries notamment étrangères, fabriquent aujourd'hui des masques et on est moins dépendant. En 2021, on consomme encore pas mal de masques, hein, des importations de Chine, parce qu'une partie ont été relocalisées en France, avec le concours très actif des pouvoirs publics et de Business France, d'ailleurs aussi.
Je rappelle justement que vous êtes le directeur général de Business France, Christophe Lecourtier, l'organisme français qui permet aux investisseurs étrangers de venir en France et qui doit également pousser nos entreprises françaises à mieux exporter et aller gagner des contrats à l'étranger. Il y a eu un des points quand même du plan de relance, c'était pas le plus médiatique, mais il est important pour aider notamment nos entreprises à continuer d'investir à l'étranger pendant la crise, parce qu'on sait que souvent les entreprises, elles coupent deux budgets, la communication, le marketing, et derrière souvent l'étranger en se disant « je me concentre sur mon marché, on verra plus tard pour l'étranger ». Est-ce que malgré tout, ça tient un petit peu ?
Alors, on a voulu justement tout à fait que ce message soit envoyé le plus vite possible, surtout aux PME, aux TPE, aux ETI, hein, c'est ça qui est notre clientèle à nous, pour leur dire c'est au plus noir de la crise qu'il faut repartir. Et on va vous donner tous les moyens pour le faire dans les conditions à la fois les plus rapides, les plus fortes du point de vue du soutien et les plus simples à utiliser. J'en veux pour preuve qu'au troisième, au dernier trimestre de l'année, il s'est passé quelque chose qui n'a pas été tellement bien noté par le papier des douanes, qui est que alors que la conjoncture en France est retombée à cause du confinement du mois d'octobre, les exportations françaises ont cru de 5% pendant ce trimestre-là. Nous, on constate aujourd'hui une activité qui est de 100 à 150% supérieure au dernier trimestre 2020 par rapport au dernier trimestre 2019. Malgré le fait que c'est très difficile de voyager.
Pour vous, c'est le drame, toutes ces conditions sanitaires.
C'est toujours pareil, hein, et c'est typique de l'état d'esprit français. On peut voir le verre à moitié vide, et il y a bien des raisons, d'ailleurs, de se plaindre aujourd'hui. Mais en même temps, on peut voir le verre à moitié plein. Ce matin, on a lancé avec Franck Riester... Le ministre du Commerce extérieur et de l'attractivité, qui est vraiment le capitaine de notre équipe de France, de l'export. Eh bien, on a lancé des vitrines numériques qui sont en quelque sorte des salons professionnels digitaux. On l'a lancé dans trois domaines où la France a beaucoup de choses à proposer, les vins et spiritueux, les cosmétiques et tout l'agroalimentaire, tout ce qui se mange. C'est des milliers d'entreprises qui, dès la semaine prochaine, vont pouvoir montrer sur ces plateformes leurs produits, hein, tous leurs produits, plus de 7000 produits aujourd'hui, et en face, on va faire venir, on a déjà commencé à le faire, par nos bureaux à l'étranger, des acheteurs, des importateurs, des cavistes, des distributeurs. Et on va créer, mais dans les prochains jours, hein, un trafic de mise en contact et de deals commerciaux, de contrats commerciaux, sans que nos boîtes françaises aient à monter dans un avion et même à quitter leur entreprise ou leur chef pour les vignerons. Donc, il y a aussi une accélération. On est en train de collectivement, parce que c'est aussi évidemment le mérite des entreprises, mais on leur donne les moyens de le faire, de gagner peut-être en un an ce qu'il aurait fallu 5 ans à réaliser en termes de digitalisation.
Eh bien, on va garder ce verre à moitié plein pour l'avenir, pour ce commerce extérieur. Un grand merci à vous, Christophe Lecourtier. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Business France. Nous, on se donne rendez-vous.
Merci à vous.
Lundi, 22h20 sur Europe 1.
Merci beaucoup Emmanuel Dutheil. Et on vous retrouve aussi lundi de 13h à 14h avec Elisabeth Assayag pour La France Bouge. Un rapide coup d'œil à la une de vos quotidiens. Demain matin, pour les vacances, les Français s'adaptent à la dernière minute. Titre Ouest France qui revient sur les adaptations en permanence du coup pour les professionnels alors que les saisonniers sans emploi crient leur détresse. Comment la pandémie a chamboulé l'école ? Ça c'est la une du Dauphiné Libéré qui titre sur un bilan morose alors que les vacances d'hiver commencent dans la zone A. Chaque semaine, dit le Dauphiné, le nombre de cas de Covid ne cesse de progresser dans les écoles. Les professionnels alertent sur le stress et l'angoisse qui gagnent non seulement les enfants mais aussi les enseignants. Le foot est-il encore un sport populaire ? Se demande Libération. La pandémie a vidé les stades, le business des droits télé est de plus en plus prohibitif. Résultat, les relations entre supporters et clubs se sont détériorées, comme l'a montré l'attaque la semaine dernière du centre d'entraînement de l'OM. Enfin, ce que prépare Biden, ce que devient Trump, dossier américain à la une du Figaro, qui revient sur les dossiers internationaux urgents auxquels s'attelle le nouveau président, tandis que de Floride, son prédécesseur règle, lui, ses comptes politiques. C'est à lire dans le Figaro. Mais pour l'heure, il est 22h30 sur Europe 1 et vous avez rendez-vous avec la libre antenne Sabine Marin qui s'installe. Bonsoir Sabine. 39-21, on est avec vous jusqu'à 1h du matin.